Bonjour à toutes et à tous, et bonjour également à ceux qui sont connectés, à celles et ceux qui sont connectés avec nous. Avez-vous suivi l'actualité la semaine passée? Je n'ai pas tout suivi personnellement, mais je sais au moins que mercredi, il y avait l'investiture de Joe Biden, désormais l'actuel président des États-Unis. Et savez-vous que tout le système de vote avec les grands électeurs, qui a été tant critiqué, a été décidé à la fin du XVIIIe siècle. Et à l'époque, un texte avec des lois était sorti, la fameuse Constitution des États-Unis d'Amérique, en 1787, 10 ans après l'indépendance de ce pays. C'est normalement ce qui se passe pour un nouveau pays. Une fois indépendant, les nouveaux dirigeants doivent réfléchir à des lois qui vont réglementer la vie de tout un peuple. C'est normalement ce qui est censé se passer. Mais pour le peuple d'Israël, qui était à peine sorti d'Égypte, ce n'était pas les anciens du peuple qui s'étaient réunis pour discuter des lois et pour se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quelle loi on va adopter. Non, c'est l'Éternel, le Dieu qui les a libérés de l'esclavage, qui leur donne sa loi. Voilà leur nouvelle constitution qui vient directement de Dieu. Et après avoir abordé comment Dieu a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte, où ils étaient esclaves, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière dans Exode 12, certains d'entre vous ont lu la suite en groupe de maison. Et déjà en Exode 14, nous lisons que le Pharaon et les Égyptiens commencent à regretter. Ils regrettent d'avoir laissé les Israélites partir parce que c'était leurs esclaves. Et ils tentent donc de les rattraper et les retrouve devant la mer qui forme un barrage naturel. Mais Dieu est avec son peuple. Dieu est avec son peuple et il ouvre la mer en deux devant ses yeux. La voie est libre et les Israélites s'engagent à pied sec. Quant aux Égyptiens, qui se lancent à leur poursuite, Dieu en a décidé autrement et la mer se referme sur eux. Israël, à ce moment-là, est totalement délivré de ses oppresseurs. Et forcément, ce qui lui vient à cœur avec Moïse, c'est de chanter l'Éternel. C'est ce que nous lisons dans Exode 15 et que vous avez étudié cette semaine. Le peuple de Dieu, avec Moïse, célèbre la grandeur et la puissance de Dieu qui a vaincu les ennemis du peuple. Mais très vite, ce peuple qui marche dans le désert se met à murmurer. Qu'allons-nous boire? Vous nous avez fait venir ici pour mourir de faim. C'était mieux en Égypte. Et malgré toutes ces plaintes, Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Dans le désert, ils ont de quoi manger. Dans le désert, ils ont de l'eau. Comme Dieu est bon avec son peuple. Et nous lisons au chapitre 19 que 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivent dans le Sinaï, près d'une montagne. Et j'aimerais juste vous montrer une carte qui situe un petit peu où est le Sinaï par rapport à leur destination. Ils doivent arriver à Canaan, qui est tout en haut, mais ils sont pour l'instant dans le sud, au niveau du Sinaï. Et ils sont à cette étape-là. C'est le point de rendez-vous que Dieu a choisi pour rencontrer son peuple et pour établir une alliance avec lui. C'est donc à cet endroit, au mont Sinaï, que Dieu donne sa loi à ce peuple qui connaît la liberté que depuis 3 mois. Il faut essayer d'imaginer ce contexte-là. Cela ne fait que 3 mois. Après 400 ans d'esclavage, cela ne fait que 3 mois qu'ils sont libres. Et Dieu leur donne sa loi. Et le chapitre 20 que nous avons lu en grande partie à l'instant fait partie des textes les plus connus de la Bible, au moins de nom. Si on ne connaît pas exactement les 10 commandements, au moins on sait de quoi on parle. On parle des 10 commandements, on parle parfois des 10 paroles, ce que nous appelons aussi le décalogue. Et jusqu'au chapitre 24, nous avons toute une partie où Dieu donne sa loi, ses commandements dans le cadre d'une alliance. Donc nous avons dans le livre d'Exode, des chapitres 20 à 24, toute une partie qui traite de cette alliance entre Dieu et son peuple. C'est par cette loi que Dieu apprend à Israël à devenir son peuple, le peuple de Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu suit la loi de Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu suit la loi de celui qui l'a libéré. Et nous aussi, comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons été libérés. Et cela nous parle aussi cet après-midi. Dieu nous apprend, par ses commandements, à devenir son peuple. Dieu nous apprend par ses commandements à devenir son peuple. Et cela ne s'improvise pas d'être le peuple de Dieu. Dieu seul peut nous l'apprendre. Premièrement, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est une citation du verset 2. Si je reviens au chapitre 19, il faut préciser que le peuple s'était préparé à rencontrer l'Éternel. L'Éternel qui avait annoncé sa venue. L'Éternel va être là en personne. Et le peuple devait se purifier et surtout ne pas gravir la montagne, car Dieu allait y descendre. Il ne fallait surtout pas qu'ils montent eux-mêmes pour aller voir ce qu'il se passe. Parce que braver cette limite, c'était s'exposer à la mort. Et les consignes étaient claires. Et nous pouvons voir comment les choses se sont passées concrètement en relisant la fin de notre texte, à partir du verset 18. « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. » À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple « N'ayez pas peur !» Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Le peuple assiste vraiment à une scène terrifiante pour lui. Des coups de tonnerre, du feu, cette nuée où se trouve Dieu. C'est donc cela, la manifestation de Dieu. Et Dieu ne se laisse pas approcher de n'importe quelle façon. Comme nous avons eu l'occasion aussi de le chanter, Dieu est saint, son nom est saint, Dieu est saint. Il n'y a aucun mal, ni aucune impureté en lui. Et de ce fait, rien d'impur n'est toléré en sa présence. C'est pourquoi le peuple doit d'abord apprendre à craindre l'Éternel, non pas à avoir peur, comme le dit d'ailleurs ici Moïse, n'ayez pas peur, non pas à avoir peur, mais à suffisamment redouter Dieu pour ne pas pécher contre lui. Craindre Dieu, c'est donc prendre en compte que Dieu est saint. Et ce Dieu saint, parfait en tout point, veut établir une relation avec ce peuple imparfait qui murmure, qui se plaint. Lisons les versets suivants qui me semblent essentiels pour comprendre l'intention de Dieu. Je retourne dans le chapitre 19, versets 4 à 6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » C'est Dieu qui parle. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Nous voyons dans ces versets-là l'intention de Dieu. Qu'est-ce qu'il compte faire ici? Dieu veut faire alliance, le Dieu saint veut faire alliance avec les Israélites qui ne sont pas saints, pas encore. Ils ne sont pas encore cette nation sainte. Le Dieu saint veut faire une alliance avec des pécheurs. Étonnant, n'est-ce pas? Et en fait, c'est la continuité de la relation que Dieu a déjà établie avec les ancêtres d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Et cette fois-ci, c'est avec tout un peuple que Dieu fait alliance. C'est avec tout un peuple que Dieu s'engage. Et à quoi s'engage-t-il? Il s'engage à être avec lui. Il s'engage à le protéger. Il s'engage à le conduire vers le pays qu'il a promis autrefois à Abraham. Et nous avons lu ce texte également, il y a quelques semaines. C'est dans son programme de faire cela. C'est dans sa grâce qu'il agit ainsi. Et c'est pour ça qu'il est allé chercher ce peuple en Égypte, pour l'amener jusqu'ici, sur le mont Sinaï, et pour en faire son peuple. Parmi tous les peuples de la terre, il y en avait beaucoup à cette époque, parmi tous les peuples de la terre, Dieu s'est choisi un peuple. Et Dieu avait un plan spécifique en agissant ainsi. Parce que c'est de ce peuple, Israël, c'est de ce peuple qu'est issu celui qui devait nous sauver, Jésus-Christ. Voilà le plan de Dieu. C'est donc dans ce contexte d'alliance que Dieu s'adresse à son peuple. Et si nous revenons au chapitre 20, verset 1. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » L'Éternel se présente à Israël comme son libérateur. Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, Dieu seul a opéré cette libération. Dieu seul a agi contre les Égyptiens en faisant mourir leur premier-né, de telle sorte qu'ils ont laissé partir les Israélites. C'est donc à l'Éternel que les Israélites doivent leur liberté. Et la sortie d'Égypte, bien sûr, est l'acte par lequel Dieu montre concrètement à son peuple qu'il l'aime et qu'il lui fait grâce. Et regardez encore la formule, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel. L'Éternel, c'est le nom que Dieu a révélé à Moïse lors de son appel. Exode 3. Dieu est, depuis toujours et pour toujours. Il est celui qui est. Et en fait, c'est presque indéfinissable, parce que personne, et nous l'avons aussi chanté, personne n'est comme lui. Il n'y a pas sur cette terre un être que je pourrais mentionner pour dire « Voilà, ça c'est Dieu ». Si je dois vous expliquer ce qu'est un homme ou une femme, il suffit que je montre l'un ou l'une d'entre vous. Mais Dieu est tout autre. Et ce Dieu éternel veut être le Dieu d'Israël à ce moment-là. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et il ne dit pas cela à tous les peuples. À ce moment de l'histoire. Et le plus incroyable, cet après-midi, c'est que l'Éternel veut être ton Dieu. Dimanche dernier, nous avons vu qu'il a opéré une grande libération, non pas pour nous faire sortir d'Égypte, mais pour nous faire sortir de l'esclavage du péché. Nous avons été libérés et nous avons commencé une nouvelle vie. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons été libérés. Et de ce fait, l'Éternel est notre Dieu, un Dieu qui veut établir une relation avec nous qui sommes son peuple. Je ne sais pas si souvent vous pensez en ces termes-là, si vous considérez effectivement que nous sommes le peuple de Dieu. Imaginez l'impression que les Israélites ont eue lorsque Dieu s'est manifesté et a dit qu'il était leur Dieu. C'est donc à un peuple libre que Dieu s'adresse. Un peuple déjà racheté, un peuple qui commence une nouvelle vie. Et si j'ai pris du temps pour m'arrêter sur ce verset 2, c'est bien pour insister sur le fait que les 10 commandements sont donnés à un peuple qui a déjà reçu sa délivrance. envers qui Dieu a déjà manifesté sa grâce. Les 10 commandements sont donnés à un peuple qui a déjà été libéré. Et de la même manière, Christ nous a déjà sauvés par sa mort à la croix et par sa résurrection. Il nous a déjà fait grâce. Et nous ne devons pas envisager ces commandements comme une manière pour nous de gagner encore notre salut. C'est déjà fait. Christ l'a déjà accompli. Nous ne devons pas envisager ces commandements comme s'il fallait être quelqu'un de bien pour être sauvé. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alors retenons donc que c'est à un peuple libéré que Dieu donne sa loi. Nous venons d'évoquer que Dieu est le libérateur de son peuple. Il est celui qui a pris l'initiative, qui a établi une alliance avec son peuple. Et dans une alliance, il faut au moins deux parties. Alors qu'est-ce que Dieu attend maintenant de son peuple, nouvellement libéré ? Ce que Dieu attend de son peuple, nous le lisons des versets 3 à 17. Qu'est-ce que ces commandements que nous lisons dans ces versets-là, les 10 commandements, qu'est-ce que ces commandements expriment au sujet de la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu demande à son peuple maintenant qu'il est libre ? Alors, il serait trop long de s'arrêter sur tous les commandements et nous devrons nécessairement un jour passer plus de temps à étudier chaque commandement. Mais pour autant, je ne vais pas me défiler et je vous propose de voir avec moi 4 commandements en particulier. À partir du verset 3, ce verset que nous avons lu aussi tout à l'heure. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple ? Dieu attend de son peuple l'exclusivité. Israël va apprendre, à travers la loi de Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Et l'Éternel veut une adoration qui lui soit propre, qui soit unique. Et à cette époque, comme vous le savez sans doute, les représentations des dieux sous forme de statues étaient nombreuses chez les autres peuples. Il y avait des statues partout. Et à ce moment précis, à cette époque-là, Dieu dit à son peuple qu'il n'en sera pas ainsi chez lui. Il n'y aura pas de statue qui représente quoi que ce soit de la création. Il n'y aura pas de culte rendu à ces idoles muettes et immobiles. Le seul culte qui compte, qui importe, c'est celui qui est rendu à Dieu, au Dieu qui parle et qui agit. Et le commandement est pertinent parce que le peuple a vécu longtemps dans une culture polythéiste en Égypte. Et le peuple aurait très bien pu être tenté d'imiter les Égyptiens dans leurs pratiques culturelles. Il fallait donc que Dieu leur apprenne comment ils devaient être adorés. Et non pas avec des représentations. Ce commandement nous apprend aussi que l'Éternel est un Dieu jaloux. Alors, ce terme souvent est pris de manière négative lorsque nous l'employons pour dire que quelqu'un est jaloux. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux dans la mesure où il aime son peuple et qu'il est en droit, après tout ce qu'il fait pour lui, d'exiger sa loyauté. Dieu est un Dieu jaloux et il a le droit d'être jaloux. Un mari a le droit d'être jaloux si il voit sa femme commencer à fréquenter d'autres hommes. C'est normal. On ne va pas dire « mais c'est mal. Pourquoi tu es jaloux ? Fais-lui confiance. » La jalousie ici montre à quel point Dieu veut que cette relation soit une relation exclusive. Il n'y a que lui. Et nous l'avons chanté, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et c'est pourquoi si le peuple se montre infidèle et désobéissant, Dieu promet de le punir. Et souvent, ce n'est pas l'affaire d'une seule génération. Un mauvais exemple peut entraîner les descendants à suivre la mauvaise pente, et parfois même à faire pire. Alors ce n'est pas toujours le cas, fort heureusement, mais les risques sont grands. Un mauvais exemple peut entraîner les descendants à faire de même. Par contre, la bénédiction est promise à celles et ceux qui aiment Dieu et qui respectent ses commandements. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple l'aime. Aimer Dieu de tout son être, c'est le commandement le plus important, avec celui d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, permets-moi de te poser la question cet après-midi. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu l'aimes au point de te débarrasser de toutes tes idoles, de tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Et plusieurs fois, ça a été dit depuis le début du culte. Peut-être que Dieu se répète ici. Pour savoir ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, il suffit d'examiner où se dirigent tes pensées. Pour certains, ce sera l'argent. Il faut en avoir toujours plus. Pour d'autres, ce sera le travail. Et je vais en parler tout de suite après. Pour d'autres, c'est l'amour ou le sexe. Et pour d'autres encore, c'est le temps libre. Le temps libre qui permet de faire tout ce dont nous avons envie. Là aussi, ça peut être une idole. Et en entendant ces exemples, vous vous rendez compte que ces idoles-là que j'ai mentionnées nous rendent esclaves, alors que Dieu veut nous rendre libres. Mes amis, débarrassons-nous de ces idoles. Un autre esclavage dont Dieu veut nous libérer, c'est celui du travail. Écoutez ce commandement au verset 8. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. » En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ce 4e commandement commence par une injonction positive. Souviens-toi. La plupart des autres commandements commencent par une formule négative. Tu ne dois pas faire cela. Mais ici, souviens-toi. Le peuple de Dieu doit prendre en compte la différence qu'il y a entre le 7e jour et le reste de la semaine. Pour le dire encore autrement, il y a dans le calendrier du peuple de Dieu un jour qui est un jour de sabbat. Ce que nous appelons un jour de sabbat, même si le terme n'est pas mentionné dans cette traduction. Un jour de sabbat, un jour de repos, un jour de cessation du travail. Y compris à cette époque pour les serviteurs de la maison et pour les étrangers. C'est le rythme que Dieu a établi au commencement, au moment de la création. 6 jours pour créer l'univers et le 7e pour se reposer. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1 et 2. Et le peuple qui appartient à Dieu suit logiquement l'exemple de Dieu, imite Dieu. Donc il y a un jour où le peuple dans son ensemble s'arrête pour l'Éternel. Et il doit se souvenir de ce jour, puisque le commandement commence ainsi, souviens-toi. Il doit se souvenir de ce jour, pas seulement en pensée, mais aussi en acte. Cette semaine, il y avait plusieurs personnes qui ont eu leur anniversaire. Si nous nous étions contentés de nous en souvenir, sans dire quoi que ce soit, sans souhaiter à la personne en question un joyeux anniversaire, en quoi ce jour aurait été particulier? Dieu ne demande pas ici simplement de se souvenir mentalement, mais de pouvoir aussi le démontrer en acte. Dieu veut que son peuple se souvienne du sabbat en acte, ou plutôt en repos. Et en s'arrêtant complètement, le peuple ne se rend pas ainsi esclave de son travail. Alors même s'il existe différentes interprétations sur la manière dont les chrétiens doivent suivre ce sabbat, nous soulignerons simplement l'importance d'avoir un temps où nous pouvons nous détacher complètement de notre travail ou de notre télétravail pour le consacrer exclusivement à Dieu, pour se reposer en Dieu. Alors le dimanche est une bonne option, et c'est pour ça que cet après-midi, nous sommes ici. Mais as-tu d'autres moments dans la semaine où tu peux décrocher de ton travail, de tes activités? Parce que si Dieu ne nous commandait pas le repos, nous serions bien capables de ne jamais nous arrêter. Le commandement suivant est le commandement préféré des parents. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Combien de fois certains d'entre nous l'ont entendu de la bouche de leurs parents? Il faut honorer ton père et ta mère, c'est écrit dans la Bible. Alors je dis cela un petit peu en rigolant, mais Dieu accorde de l'importance. Dieu accorde de l'importance à leur relation parent-enfant ou enfant-parent. Alors que signifie honorer ses parents si ce n'est d'abord les respecter à cause du rôle et de l'autorité que Dieu leur a donné? C'est l'ordre que Dieu a établi. Il a établi des parents et puis il y a les enfants. Et cet ordre, nous ne pouvons pas le bouleverser. Honorer ses parents, c'est également leur accorder de l'importance. Pour l'enfant, ce sera d'obéir à ses parents. Et cela nous est rappelé dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. » Et écoutez la suite. « Car c'est là ce qui est juste. » Et pour l'adulte, ce sera de prendre en considération leur avis. Et ce sera également de prendre soin d'eux quand ils deviendront plus âgés. Je ne vais pas plus loin sur ce verset, il y aura d'autres occasions d'en parler. Mais j'aimerais terminer avec le dernier verset de cette liste. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Ce dernier commandement nous montre que tout ne se situe pas dans les actes. Dieu prend en compte nos pensées. Dieu prend en compte ce qui se trouve dans notre cœur. Et la convoitise, bien sûr, n'est pas visible à première vue. Cela se passe à l'intérieur, au fond de nous, lorsque nous commençons à nous comparer aux autres. Voilà ce que l'autre a et que je n'ai pas. Une maison, un conjoint, des personnes à son service, toutes sortes de biens. Alors je ne cite pas le bœuf et l'âne. Je pense que de nos jours, on ne convoite plus ce genre de choses. La convoitise est terrible. La convoitise est terrible dans la mesure où elle peut pousser l'être humain à enfreindre les autres commandements qui sont cités un peu plus haut. Par convoitise, l'être humain peut être conduit à commettre un meurtre, un adultère. C'était le cas pour le roi David, qui a fait tuer l'un de ses hommes, le mari de Bathsheba, avec qui il avait commis un adultère. Donc, et tout cela a commencé avec la convoitise. Par convoitise, l'être humain peut être conduit à commettre un vol. Le bien d'autrui est intéressant, eh bien je vais m'en emparer. La convoitise peut nous conduire également, peut-être, à porter un faux témoignage dans le contexte d'un procès, afin de récupérer quelque chose. Et Dieu ne veut rien de tout cela chez son peuple. Le peuple de Dieu doit être composé d'hommes et de femmes intègres, qui se respectent mutuellement, qui aiment leur prochain. Et cela nous amène aussi à nous examiner au sein de l'Église. Ne convoite pas les dons et les capacités que Dieu a donnés aux autres. Ne convoite pas la situation privilégiée dans laquelle ton frère ou ta sœur en Christ se trouve. Que ce soit en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le travail, la maison ou les enfants. Ne convoite pas cette situation privilégiée. Oui, dans l'Église, il peut y avoir de la convoitise. Examinons ce qui se trouve dans notre cœur. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de la convoitise, du mécontentement, de l'insatisfaction permanente. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Dieu a libéré son peuple Israël. Et en donnant ses commandements et bien d'autres, il veut encore le rendre libre de d'autres formes d'esclavage. Et cela nous parle aujourd'hui. Comme Israël autrefois, nous devons apprendre à être le peuple que Dieu veut que nous soyons. Et cependant, il faut noter qu'il y a quand même une différence entre la situation d'Israël à l'époque de Moïse et la situation de l'Église aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut se demander ce que Dieu attend de nous. Alors vous allez me dire que je viens d'expliquer quelques commandements, donc nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais l'Église n'est pas exactement dans la même situation que le peuple d'Israël. Entre l'époque de Moïse et nous, aujourd'hui, Christ est venu. Et cela fait une grande différence. Les 10 commandements n'ont pas changé, mais Dieu a établi entre-temps une nouvelle alliance. Alors, qu'est devenue l'ancienne alliance ? Celle dont il est question dans Exode. En fait, malgré tout ce que l'Éternel a fait pour son peuple, malgré tous ses commandements, le peuple d'Israël a échoué et n'a pas respecté sa part du contrat. Et nous le verrons la semaine prochaine d'ailleurs. Israël a échoué. Mais nous devrions également ajouter, mais nous aussi, nous continuons d'échouer. Alors quelle différence ? Quelle différence ? Assurément, nous ne sommes pas à la hauteur. Notre crainte de Dieu est souvent bien faible. Et comme le peuple, nous restons parfois à distance, loin de Dieu, non pas par peur, mais plus par manque d'amour. Nous nous éloignons de Dieu plus par manque d'amour. Et face à ces commandements, nous nous sentons en échec. Alors, est-ce que c'était pour nous rabaisser que nous avons relu ce texte ? Un seul parmi le peuple d'Israël a satisfait à toutes ses exigences. Un seul a obéi parfaitement à tout ce que Dieu a demandé dans ses 10 commandements et dans tous les autres commandements. Il s'agit de Jésus. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous comptions sur notre obéissance à ses commandements pour dire que nous sommes des personnes justes, des gens bien. Dieu n'attend pas cela de nous. Nous ne sommes pas à la hauteur, mais nous comptons constamment sur celui qui est toujours à la hauteur. Nous mettons notre foi en Jésus. Et ainsi, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 16, « Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. » C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non pas parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne, car personne, ici l'apôtre Paul se répète pour bien insister là-dessus, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Et ça fait une grande différence. Doit-on alors cesser de suivre les 10 commandements après avoir lu cela? Si c'était le cas, je n'aurais même pas pris la parole cet après-midi. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ces commandements sont destinés au peuple de Dieu. Ils ont été énoncés par Dieu lui-même au peuple d'Israël. Et nous les avons reçus en héritage quand nous avons intégré le peuple de Dieu. Jésus en parle dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul aussi. Et ces commandements nous concernent donc aussi. Ces 10 commandements restent la volonté de Dieu pour nous en 2021. Et nous n'y obéissons pas pour prouver que nous sommes des gens bien, mais nous y obéissons parce que nous aimons Dieu, notre libérateur. Il nous a libérés pour que nous le servions et que nous fassions ce qui lui plaît. Pour que nous soyons saints comme il est saint. Et pour cela, il nous a donné son esprit. Et Paul écrit aux chrétiens de Rome, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils, avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Alors ce texte est très dense, mais il dit tout à propos de ce que Dieu a accompli pour nous. Jésus a satisfait pleinement à la justice de Dieu, en mourant à notre place à la croix, parce qu'il fallait bien que quelqu'un meure pour notre désobéissance. C'est ce que méritent nos fautes. Et dans sa grâce, et dans son grand amour, Jésus a accepté de se sacrifier. Ainsi, nous ne sommes plus condamnés. Ainsi, nous sommes libérés dans la dépendance de l'Esprit. Dieu a mis en nous, Dieu a placé en celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, Dieu a placé en eux son esprit. Et c'est cet esprit-là qui travaille dans notre cœur. Et quand je parle de cœur, je parle du centre même de notre personne, de tout ce qui fait notre personne. Alors comment dépendre plus de l'esprit? En priant. En priant, en reconnaissant devant Dieu notre incapacité à lui obéir, à l'aimer comme il le mérite. En priant, en lui demandant de nous transformer encore. Dieu seul peut changer notre cœur. Dieu seul peut changer nos aspirations. Dieu seul peut changer nos désirs. Et si nous reprenons les commandements que j'ai évoqués, qu'est-ce qui doit encore changer dans ta vie? Y a-t-il une idole que nous ne voulons pas lâcher et qui nous rend esclaves aujourd'hui? Est-ce qu'il existe cette idole dans ta vie? Autre question, sommes-nous d'une certaine manière esclaves de notre travail au point de négliger le repos et le temps dédié à Dieu? Pour certains, passons-nous à côté de l'honneur que nous devons à nos parents. Et puis enfin, est-ce qu'en toute honnêteté, nous pouvons dire que nous ne convoitons pas ce que notre prochain a et que nous n'avons pas? Dieu peut changer tout cela en nous. Et avec certitude, je peux affirmer que Dieu va changer tout cela en nous. Pour quelle raison? Parce que Christ a déjà tout accompli, afin que nous devenions le peuple qu'il veut que nous soyons. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, nous ne resterons pas dans cet état indéfiniment. Le Décalogue n'est pas juste un texte de loi comme la Constitution américaine. Il a été donné par Dieu pour son peuple qui venait de sortir d'Égypte. C'est le texte du libérateur pour son peuple libéré. Et à bien des égards, le peuple d'Israël a échoué dans l'obéissance qu'il devait à celui qui l'a libéré. Israël a échoué dans sa vocation en tant que peuple de Dieu. Mais si les 10 commandements sont toujours valables pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu n'en a pas fini avec nous, qui faisons partie de son peuple. Il veut nous apprendre, et devrais-je dire, il veut nous éduquer à devenir son peuple. Un peuple libre, un peuple saint. Et avec son esprit en nous, ce projet est possible. Et il est déjà en cours. Apprenons donc à dépendre de l'esprit de Dieu, dès maintenant, pour aimer Dieu et pour lui obéir. Encourageons-nous les uns les autres dans ce sens. Et montrons ainsi au monde qui nous entoure qu'il y a un peuple qui appartient à Dieu et qu'il se réunit entre autres à sa mort. Amen. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à me rejoindre sur scène pour que collectivement nous puissions demander à Dieu de sonder nos cœurs. Après tout ce qui a été dit concernant les 10 commandements, que Dieu nous aide à nous examiner et que de tout notre cœur nous puissions lui demander aussi qu'il nous permette de suivre ses voies à lui, qu'il nous en donne la capacité, la force, l'envie, que nous puissions demander cela ensemble en tant que peuple.